Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média, une émission sur laquelle j'ai d'excellents retours.
Ah. Hein.
Bonjour Cassandra Dadi, Juan Luca Lemoine et Jennifer Pichenet.
Ah oui.
Bonjour,
bonjour
Thomas.
Je me suis permis de légèrement retoucher vos prénoms.
Oui, c'est bien.
C'est pour leur donner une petite touche un petit peu plus secret story.
Ah,
Plus sexy, tout simplement.
Sauver Cassandra, taper 1.
J'aime bien Cassandra, finalement.
C'est pas mal. Et Jennifer Pichenet, c'est bien.
Ah,
c'est
ouais, très ça
bien.
Va très bien.
Je prends, j'achète.
On va parler du
c'est
retour.
C'est son nom, la nuit.
De son double maléfique. On va parler du retour de ce programme Secret Story sur TF1 avec l'homme aux commandes de cette grande machine, l'animateur Christophe Beaugrand. Salut Christophe.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et on a une Cassandra dans le casting,
oui,
cette année.
Ouais,
on n'a pas de Jennifer, mais on a une Cassandra.
On peut vous l'offrir si besoin. Et puis dans la deuxième partie, nous serons avec David Hallyday.
Au-delà de nos différences.
Et David Hallyday qui mêle ses chansons à celles de son père. On va découvrir ça et revenir sur son parcours tout à l'heure. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et alors, je sais que vous écoutez cette émission tous les matins, Christophe Beaugrand.
Ça m'arrive en sortant de bonjour. Je manque un peu le début.
Et vous savez qu'on démarre avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors, ce matin, nous recevrons donc Christophe Beaugrand pour le retour de cette émission culte Secret Story.
Oui, mais avant de parler de l'animateur, j'ai envie de parler de l'homme, Thomas. Je dirais même du médium, car Christophe a lui aussi un secret. Il voit l'avenir. Il y a un an, en interview sur Sud Radio.
Il y aura peut-être Secret Story qui reviendra.
Ouais, alors ça, je suis pas sûr. Hein. J'y crois moyen. Pour tout vous dire, j'y crois moyen.
C'est ce qui s'appelle avoir du pif.
Bien joué.
Je pense que c'est pour ça qu'on a mis Christophe à l'euro-million. Il n'y a aucun risque qu'il trouve les bons numéros.
Ouais. Et alors, est-ce que vous avez regardé la reprise de Secret Story?
Bah, bien sûr, je ne pouvais pas manquer ça.
Ouais.
Et tu sentais que Christophe était très content de retrouver le public de Secret.
C'est vrai.
N'ai jamais vu un animateur aussi poli.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir chez vous. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Et bonsoir chez vous.
Je crois que c'est bon, Christophe, vous avez oublié personne.
C'est parce que je me prenais pour une star, je tapais dans les mains du public.
Ça
faisait longtemps, c'est pour ça.
Non, mais vous avez tout donné. À part vous déplacer chez les gens pour leur faire des bisous, vous pouviez pas faire mieux.
Mais je le fais.
Voilà. Le seul petit reproche. Normalement, en commençant à 23h34, on dit pas bonsoir, on dit bonne nuit. Bon, ce dont tout le monde a parlé, c'est évidemment le remplacement de la voix par une voix moins patriarcale, mais avec un ton un peu robotique.
Ici la voix. Zoé, tu es la première habitante à faire ton entrée dans la maison des secrets.
Là, on était proche de la voix synthétique qu'on trouve sur Internet et à qui on peut faire dire n'importe quoi. Si, je vous assure, j'ai fait un essai.
Ici la voix. J'aime beaucoup Julien Pichenet et le boudin blanc au mori.
C'est à s'y méprendre.
C'est fou.
Ouais. C'est vrai.
Eh ben non, c'était bien un être humain. Je m'en suis rendu compte car si la voix voit tout dans la maison, la particularité de la nouvelle voix, c'est qu'elle est myope.
Perrine, Maxence, avant de faire votre entrée dans la maison des secrets, merci d'ouvrir la porte située devant vous. Merci d'ouvrir la boîte située devant vous.
Quand tu confonds une porte avec une boîte, c'est très myope.
Oui, c'était écrit petit, je crois.
Une voix aussi un peu plus violente que l'ancienne, ou dyslexique, on ne sait pas.
En justifiant ton choix, si tu le souhaites, qui veux-tu éclater de la victoire? Qui veux-tu écarter de la victoire?
Non, mais cette année, pour gagner, il faut éclater les autres candidats. Faut les mettre en sang. Mardi, on a donc découvert les fameux candidats.
Tu vis à Londres? Dans la vie, tu es footballeur professionnel?
Voilà, donc tu es au chômage. Car si t'es footballeur professionnel et qu'en avril, tu peux aller faire Secret Story, c'est que t'es pas débordé. Hein. Mais bon, ce qu'on attendait tous, c'était les secrets. Et le problème, le petit problème des émissions de télé, c'est que le public est toujours enthousiaste, quelle que soit l'annonce.
Un habitant ou une habitante a pour secret, j'ai été abandonné dans une gare à 4 ans.
Ouais, j'ai été abandonné à 4 ans. Ouais.
Non, je ne réagirai pas là,
c'est ça. Quand j'étais enfant, j'étais séquestré par un psychopathe dans une cave.
Bon, j'avoue, c'est drôle.
Peut-être briefer le chauffeur de salle, quand même.
Petit regret, cette année, il n'y a pas eu de secret dingue. Moi, mon préféré de tous les temps, c'est quand Alexandre nous avait dit dans une précédente édition que c'était un vampire, vous vous souvenez?
Je suis un vampire. Alors, mon secret, il a été découvert
Eh bien, grande surprise, parce que je trouve qu'il a été découvert très tôt, beaucoup trop tôt à mon goût.
Bah oui, mais c'est de sa faute, hein. Il tenait à dormir dans un cercueil, et la nuit, il voulait sucer tout le monde dans le dortoir. Je parle du sang.
Bien sûr.
Donc pas de dinguerie comme ça cette année, mais quand même, il y a eu le secret de Justine.
Ah. Justine, Anaïs est une comédienne qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est elle qui va faire son entrée à ta place dans la maison.
Deux gouttes d'eau.
Ah oui, la même.
Des grosses gouttes, on va dire. C'est ça. Non, mais c'est à mourir de rire, ce truc.
Je vous ai dit que la voix était myope. Hein. Il y avait 5 cm de différence entre les deux. Pas la même voix, pas le même nez, pas la même mâchoire, pas le même visage.
C'était pas du tout la même personne.
Ça rien à voir.
Le secret a tenu 8 heures.
La même robe.
Mais le retournement que personne n'avait vu venir, évidemment, c'est surtout ça.
Vous avez intégré la fausse maison. Quoi? Sous les ordres de cette fausse voix. Le secret commun des habitants est donc... Nous sommes les habitants de la fausse maison.
Là, Christophe n'était pas au courant et j'imagine que dans votre tête, il y a eu un petit moment de flottement. Parce que si la prod est assez tendue pour mettre une fausse voix et une fausse maison, dites la vérité, est-ce que vous avez regardé en coulisses pour voir si Benjamin Castaldi n'allait pas arriver?
J'ai vérifié, mais non, il n'était pas là. Non, je savais pour la fausse maison, mais effectivement, la voix, ils m'ont eu. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, je fais face à une production très joueuse également.
C'est ça. En tout cas, ça a été un formidable retournement de situation. Et vous n'avez pas pu cacher votre enthousiasme.
C'est la folie sur le plateau, c'est la folie sûrement chez vous. C'est incroyable.
Christophe, quand vous dites c'est la folie sûrement chez vous, c'est très optimiste. Il était 2h18.
C'était pas la folie.
Un mardi quand même.
C'était pas la folie.
Mais vous savez quoi, il y a plein de gens qui ont écrit justement qu'ils étaient chez eux, ils criaient.
À 2h18 un mardi.
Mais oui, leurs voisins ont dû être ravis, mais les fans de Secret Story sont très expressifs.
Mais c'est pour cet enthousiasme communicatif que j'aime votre animation. Je vous souhaite une très bonne saison de Secret.
C'est adorable, merci
bravo,
beaucoup.
Bravo Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve lundi et d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec Christophe Beaugrand. On va évidemment parler de cette nouvelle saison de Secret Story. Oui, les premiers rendez-vous de Secret avec les premiers secrets. Oui. On va débriefer tout ça. Restez avec nous sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin, Thomas.
Je reçois ce matin Christophe Beaugrand qui a lancé mardi soir la nouvelle saison de Secret Story sur TF1. Un retour après quand même 7 ans d'absence. La direction de TF1 a mis beaucoup de temps à acter ce retour, à décider aussi de qui allait le présenter. Ça a dû vous paraître interminable cette attente, Christophe?
Alors, j'ai pas attendu depuis 7 ans, on savait qu'il allait y avoir une pause, peut-être que ça allait jamais revenir. Moi, je pensais en mon fort intérieur qu'un jour ça allait revenir, mais au bout d'un moment, je sais qu'il y avait des discussions. Moi, j'ai vu les gens dans Démol réguliers qui m'ont expliqué qu'ils essayaient c'était pas évident.
Ça bloquait, ouais.
Il fallait réussir à trouver peut-être le bon moment. Je pense qu'effectivement le succès de la Star Academy dans cette même case qu'on appelle l'after school, donc le retour des cours vers 17h-17h35, ça a été un gros succès avec la Star Academy. Et je pense qu'on est dans une période aujourd'hui où le revival est à la mode. Il y a un côté nostalgique et il fallait qu'on ait les bons ingrédients. Et j'ai l'impression en tout cas qu'il y a eu une attente aussi du public. Et parce que les gens étaient là, présents, même si on a fini effectivement à 2h19 du matin, ce qui fait tard, je vous confirme.
Il y avait encore du monde.
On a fait en moyenne 800 000 téléspectateurs sur une émission qui commence à 23h40 et qui finit à 2h20. C'est un gros, gros succès. Donc on était, honnêtement, moi j'imaginais pas que ça allait faire un aussi bon score pour le lancement.
Vous êtes très content du lancement,
ouais,
en tout cas.
On est très, très heureux du lancement.
Y compris de la première, des premières quotidiennes, là, vous êtes satisfait?
Oui, le truc, c'est lancer.
Parce que c'est en dessous de la Starac pour le coup.
Oui, mais lancer en milieu de semaine comme ça, c'est pas facile. Il y avait les programmes Les Familles Nombreuses juste avant, donc on fait mieux déjà que ce programme là ça cartonne sur les cibles privilégiées, évidemment, qu'on cherche à viser.
Et puis un programme comme ça, j'imagine, pour TF1, l'enjeu il est aussi sur les réseaux sociaux, sur la résonance.
Je vous confirme,
sur
le côté numérique, on a un nombre de vidéos vues qui est gigantesque. J'en discutais avec Jean-Louis Blot, le patron d'Endemol, qui me dit c'est incroyable, le soir du lancement, donc le lancement qui a été, on l'a dit, très tardif, on a eu plus de messages sur X que la finale de la Star Academy. Qui qui était pourtant en prime time. Il y a vraiment quelque chose, un phénomène qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, et c'est important bien sûr aujourd'hui, puis sur TF1 Plus qui est la plateforme de TF1 maintenant, sur laquelle on peut retrouver beaucoup de vidéos et notamment une émission ce soir qui sera pour la première fois 100% sur TF1 Plus.
Mais alors, en regardant mardi soir la première, on a pu constater qu'ils ont vraiment mis le paquet sur le bazar, comme a dit l'une de vos candidates.
C'est exactement ce qu'a dit Zoé en rentrant dans la maison, parce qu'elle est belge, elle est de Namur, ils ont mis le paquet sur le bazar.
Avec la plus grande maison des secrets jamais construite. Mais alors, au-delà de ce qu'on a pu voir, racontez-nous un peu les coulisses de cette production de Secret Story, parce
alors,
que c'est quand même...
Il y a des secrets, je ne sais pas si je pourrais tout vous dire, alors allez-y.
Mais c'est quand même l'un des plus grands bousins de la télévision française. Il y a énormément de monde qui travaille sur cette émission.
Bah déjà, ça a été compliqué de trouver un endroit pour pouvoir tourner. On ne peut plus tourner à la plaine Saint-Denis parce qu'il n'y a plus assez de place. Donc il fallait qu'on trouve un endroit dans lequel on pourrait s'installer. Il fallait un grand hangar pour installer la maison. Il fallait qu'il y ait un grand parking pour installer le jardin de la maison. Et on voulait construire un plateau attenant à la maison, collé un peu comme le font Big Brother, comme le font les Anglais sur Big Brother. À l'époque du Loft, il y a eu ça aussi, effectivement. Et du coup, on a galéré pour trouver. Et on est à Poissy, en l'occurrence, dans une zone industrielle.
Une maison de 1000 mètres carrés, c'est
ça ? Ouais, il y a 1000 mètres. Alors le hangar est gigantesque. On a des éléments de décor qui sont derrière et on a effectivement une maison de 1000 mètres carrés si vous comptez dedans la zone de jeu qui fait 250 mètres carrés, qui est pour la première fois on a une zone dans laquelle se rendent nos concurrents pour tout un tas de jeux comme celui dont vous avez parlé avec les ballons là, on va éclater les candidats.
Et puis alors cette année vous insistez beaucoup aussi sur le fait que Secret Story est un jeu de stratégie et pas de la télé-réalité. Est-ce que l'idée c'est aussi de s'inspirer du succès des traîtres par exemple sur M6 et d'aller plus vers ça?
En fait moi j'ai toujours considéré Secret Story comme un jeu. Quand je l'ai présenté pendant 3 saisons. Alors évidemment dans la forme c'est une émission de télé-réalité, mais dans le fond c'est un jeu. Il y a des règles, il y a des candidats qui ont un jeu, il y a de la stratégie. Après évidemment dans ce qu'on appelle l'écriture, dans la façon de monter, la façon dont c'est fabriqué, oui c'est une télé-réalité, mais au final ces histoires de personnages qu'il fallait reconnaître, de trahison, de supercherie, on a fait les traîtres avant les traîtres en quelque sorte, parce que ce sont ces ficelles-là. Moi quand j'ai vu le succès des traîtres, je me suis dit, tiens, ça peut-être aussi montrer que le public aime ce type de tricherie, de supercherie, comme on l'a fait pendant des années dans Secret. Ça peut faire revenir à la mode quelque chose qu'il a été et qu'on avait pour le coup, qu'on a créé. Et d'ailleurs, il faut préciser que Secret Story, c'était une création en démol française. Parce qu'au moment où le Loft s'est arrêté, le téléspectateur français en voulait plus en fait. Le Loft, c'était pas assez. Voir juste des gens filmés dans une maison, ça ne suffisait pas. Donc on a rajouté des règles, un jeu, une voix et tout un tas de surprises et de rebondissements.
Mais alors du coup, j'avoue que comme pas mal de téléspectateurs, j'ai été surpris parce qu'on nous avait annoncé des candidats authentiques et c'est vrai qu'on a retrouvé pas mal de TikTokers. Ça a été beaucoup noté sur les réseaux avec des gens qui sont déjà connus,
vu leur visage à certains.
En fait, il y en a trois. Vous parlez de ces gens qui peuvent être présents sur TikTok, mais là où je suis pas juste tout à fait d'accord avec vous, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est présent sur les réseaux sociaux et sur TikTok qu'il n'a pas un caractère et une personnalité authentique. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'avoir des personnalités, des gens qui peuvent être extravertis, mais qui puissent être eux-mêmes. Et je pense que dans les candidats qu'on a proposés dans ce casting, on a ça. C'est vraiment ce qu'on s'était fixé, d'avoir des personnalités auxquelles le public pourra s'attacher et qui sont authentiques. Alors, authentique, comme disent certains. Il peut y avoir l'accent, mais authentique. Après, effectivement, on a trois profils, essentiellement 3-4 profils qui ont déjà été vus sur 15. Ça veut dire qu'il en reste 11 qui sont totalement... On a quand même beaucoup de candidats, je tiens à le préciser, quand même, qui viennent de ce qu'on appelle la casting machine, de tous les candidats lambda qui n'étaient pas du tout
connus.
Qui
ont déposé leur candidature.
Exactement.
La première élimination, c'est ce soir, dans la quotidienne.
Oui, avec une nouvelle mécanique de jeu. Là, pour le coup, pour la première semaine, on laisse au public le temps de s'attacher aux personnages, donc on n'a pas mis de voting, les gens ne vont pas envoyer les SMS, on fait ça à partir de la semaine prochaine. Ce soir, il y a une mécanique de jeu où ils vont s'éliminer entre eux, ce qui va forcément créer des rebondissements, des surprises et des coups de théâtre. C'est un peu casse-gueule aussi, parce qu'on ne sait pas du tout qui va quitter l'aventure. Donc il y a un vrai suspense.
On va découvrir ça en direct. Merci beaucoup,
et en public,
Christophe Beaugrand. On va vous libérer d'ailleurs pour aller aux répètes de Secret Story avec cette première élimination ce soir.
Mais surtout,
sur
on va se marrer, c'est surtout ça. Et je pense que l'humour, c'est un des maîtres mots de la saison cette année.
Merci beaucoup d'être passé
avec
ce matin
plaisir,
sur Europe 1, Christophe.
À
très bientôt.
À tout à l'heure.
Oui, restez avec nous pour le journal des médias dans un instant sur Europe 1 avec Julien Pichenet. Et ce matin, on va revenir sur l'affaire Kenji Girac.
Évidemment.
Le procureur a parlé hier et selon certains, il a d'ailleurs un peu trop parlé. On en parle dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, laissez-leur Thomas du journal des médias de Julien Pichenet.
Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien.
Et on commence avec le chiffre de Mademoiselle Holmes sur TF1 avec Lola Devers, 3 850 000 téléspectateurs, 23% de part de marché, ça marche bien.
Bon score, ouais.
Les Secrets du Château sur France 3 arrive deuxième, c'était une rediffusion avec Annie Dupéret, 2 300 000, Pékin Express complète le podium, 2 millions pour Pékin Express sur M6.
Qu'est-ce que donnait Secret Story, justement, ouais, ouais, dont on parlait avec Christophe Vaughan?
La deuxième quotidienne a augmenté par rapport à la première. On est passé au-dessus de la barre du million, 1 050 000 téléspectateurs. Visiblement, Secret Story prend des téléspectateurs au juste prix qui a lieu au même moment sur M6, puisque le juste prix était à son plus faible hier, 500 000 téléspectateurs.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis on y voit désormais plus clair dans l'affaire Kenji Girac, l'ancien vainqueur de The Voice se serait blessé en voulant simuler un suicide.
Le procureur de Mont-de-Marsan a tenu une conférence de presse hier pour donner les derniers détails de l'affaire. Il en a même trop donné, selon les managers du chanteur, qu'il accuse d'avoir divulgué des détails de la vie privée et familiale de l'artiste alors qu'aucun délit n'a été commis. Au lendemain de l'audition de Kenji Girac, le procureur a expliqué qu'il aurait voulu simuler un suicide au pistolet lundi matin, et ce pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute. Seulement, Kenji aurait oublié de vérifier si le chargeur comprenait des munitions. Il le croyait vide, ce qui n'était pas le cas. Kenji Girac s'est sérieusement blessé. L'affaire est sur le point d'être classée, mais elle suscite de nombreuses réactions. Sur X, le chanteur Vianney a qualifié le procureur de procureur multicasquette. J'espère que la presse people lui enverra des fleurs, a-t-il ironisé. Précisons que Kenji est en général très très discret hein, sur sa vie privée.
Et là, c'est vrai que le procureur a passé à peu près 1h20 sur cette affaire. C'était peut-être un petit peu trop. Il y avait peut-être un petit peu trop de détails, effectivement. Et puis également dans l'actualité des médias, cette étude menée par Médiamétrie pour l'Arcom sur les téléconnectés.
Les téléconnectés qui sont présentes dans près de 9 foyers sur 10 qui sont équipés d'un poste. Ces téléconnectés nous facilitent l'accès aux plateformes et aux replays. Et d'après cette étude, les téléviseurs connectés servent surtout à regarder la télévision linéaire, en tout cas pour 78% des foyers. Les programmes en replay concernent eux 64% des foyers et les offres de streaming par abonnement 54%. Bon, selon cette même étude, toutefois, les téléconnectés ne mettent pas assez en avant la télé en direct sur leur interface face aux grandes plateformes comme YouTube et Netflix.
Et puis, c'était dans les tuyaux, Christophe Jakubizine est le nouveau directeur des Échos.
Alors, le groupe LVMH, propriétaire du quotidien économique, avait proposé il y a un mois la candidature de ce journaliste, Christophe Jakubizine. Cette candidature a été approuvée par le conseil de surveillance des Échos, puis validée par les journalistes. Âgé de 56 ans, Christophe Jakubizine est passé par Le Monde, par TF1, par LCI, par RMC, par BFM TV et BFM Business, dont il était d'ailleurs jusqu'ici le directeur de la rédaction. Cette nomination met fin à une période de troubles, puisque les Échos n'avaient plus de directeur depuis la fin du mois de septembre.
Et puis France 3 diffuse ce soir un documentaire rendant hommage à ces artistes pop féminines qui ont secoué la France dans les années 80.
Lio, Catherine Ringer, Caroline Loeb, Gilles Kaplan, Mylène Farmer, Jeanne Masse, Muriel Moreno de Niagara, elles ont toutes un point commun, lequel? Eh ben, elles sont brunes. Ah, même Mylène Farmer, même Muriel Moreno, hein, qui sont brunes d'origine.
C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des fruits.
Très belle phrase, hein, de la chanson.
On se souvient tous de cette chanson de Lio en 87. Le documentaire s'appelle d'ailleurs Les brunes ne comptent plus pour des prunes.
C'est bien.
Après les années Sylvie Vartan, les années Sheila ou France Gall, c'est vrai que les années 80 ont été les années brunes. Comment ces artistes ont prolongé les mouvements féministes des années 70? Comment elles ont inventé une manière d'être chanteuse qui n'existait pas avant elles? C'est à ces questions que tente de répondre la réalisatrice Lucie Carriès. Elle m'a confié que c'est en écoutant la chanson de Princesse Erika de 88 qu'elle a eu l'idée de ce documentaire. Écoutez.
Un jour, je réentendais Trop de Blabla, qui est quand même une chanson qu'on connaît par cœur. Et tout d'un coup, j'ai écouté. Et je me suis dit, mais en fait, ça parle des violences conjugales. Et je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Et à partir de là, j'ai déroulé ce fil et j'ai réécouté toutes ces chansons, encore une fois qu'on connaît par cœur et sur lesquelles on continue de danser ou nos enfants dansent. Il y a quelque chose qui nous a été insufflé presque à notre insu, quelque chose d'extrêmement inspirant. Où on dynamite les archétypes, mais on le fait avec humour.
Les brunes ne comptent plus pour des prunes. Excellent documentaire ce soir sur France 3 à 21h10 avec des images d'archives étonnantes et des témoignages des principales intéressées.
Et ben on leur souhaite d'avoir plus de succès avec Lio, Caroline Loeb et Catherine Ringer que les flammes hier.
200 000 téléspectateurs seulement sur W9 pour la cérémonie du rap français malgré la présence de vedettes comme Aya Nakamura.
0,9% du public, c'est vrai que c'est un tout petit score. Après l'enjeu est peut-être là aussi plutôt sur les réseaux sociaux pour ce type d'émission. On termine avec cet événement sportif inédit proposé ce week-end par France Télévisions.
Au jeu, streamers. Demain, 14h, Paris La Défense Arena. Des vedettes vont s'affronter dans plusieurs sports olympiques. Il y aura du basket, de l'escalade, du tennis de table ou encore du volley. Il y aura précisément 32 participants, parmi lesquels des streamers, des créateurs de contenu, mais aussi des présentateurs et des animateurs de France Télévisions. C'est une compétition originale qui sera animée par Samuel Etienne et Cécile Grec. Alexandre Omar a joint pour Culture Média.
L'idée, c'était de faire une compétition un petit peu hybride où deux mondes se rencontrent, celui de, on va dire, de la télé un petit peu traditionnelle et celui du streaming. C'est la première fois qu'une chaîne tente un tel événement. Je trouve que c'est très audacieux et en tout cas, je suis très très fière d'y participer parce que c'est un projet inédit, nouveau et qui en plus est monté et organisé par des personnes formidables. Donc voilà, j'espère que ça marchera.
Au jeu streamer, ce sera donc demain à 14h pour suivre la compétition. Rendez-vous sur France.tv.
Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.
Et Culture Média, Thomas, continue après les infos de 10h.
Oui, et on va être dans un instant avec David Hallyday, je vois qu'il vient d'arriver. Il sort un album où il mélange ses tubes avec celui de son père. On a plein de choses pour lui, ça va être magnifique.
Et puis vous le savez, tous les week-ends, le samedi et le dimanche, Europe 1 vous donne rendez-vous de 14h à 16h pour des après-midi récits passionnants. Christophe Ondelade vous raconte les affaires criminelles qui ont marqué les Français, c'est de 14h à 15h. Et puis de 15h à 16h, vous plongez au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud et vous allez découvrir des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire. Des récits à télécharger en podcast ou à réécouter en replay sur toutes les plateformes d'écoute, sur Europe 1.fr et sur l'appli Europe 1, évidemment. À tout de suite.